Selma Lagerlöf, une légende de Jérusalem. Dans la vieille et vénérable mosquée d'El-Aqsa, à Jérusalem, se trouve, dans le bas-côté qui contourne le bâtiment, une large et profonde baie de croisée. Dans cette baie, on voit étendu un vieux tapis usé, et assis sur le tapis, jour et nuit, le vieux Messulam, devin de son métier, et qui, pour une somme modeste, se charge de prédire aux visiteurs leur sort futur. Or, il arriva une belle après-midi d'il y a quelques années que Messulam, assis comme toujours à sa fenêtre, fut de si mauvaise humeur qu'il ne rendit même pas leur salut aux passants. Personne cependant ne se sentit froissé de son impolitesse, car on savait qu'il se désolait d'une humiliation subie au courant de la journée. Un souverain puissant de l'Occident se trouvait en visite à Jérusalem, et au matin de ce jour-là, l'hôte illustre, entouré de sa suite, avait traversé El-Aqsa. Avant son arrivée, l'intendant de la mosquée avait fait balayer et nettoyer tous les petits recoins de la vieille bâtisse. Il avait en plus ordonné que Messulam fût mis dehors. Il avait trouvé impossible de le laisser là pendant l'auguste visite. Non seulement son tapis était sale et déchiré, et les sacs entassés tout autour dans lesquels il fourrait ses biens, d'une malpropreté répugnante, mais lui-même, Messulam, ne pouvait pas être considéré comme un ornement de la mosquée, loin de là. À vrai dire, c'était un nègre d'une laideur incroyable. Ses lèvres étaient énormes, la mâchoire inférieure proéminente d'inquiétante façon, le front extrêmement bas, et le nez absolument pareil à un groin. Ajoutons que Messulam avait la peau rude et rugueuse et un corps obèse et difforme à peine couvert d'un châle crasseux. Et ne soyons pas trop surpris qu'on lui défendît l'entrée de la mosquée tant que l'hôte illustre s'y trouverait. Le pauvre Messulam, qui avait la conscience d'être un homme fort sage malgré sa laideur, éprouva un vif dépit de ne pas être admis à voir l'auguste voyageur. Il avait espéré pouvoir donner à celui-ci quelques preuves des vastes connaissances qu'il possédait en fait de choses secrètes et mystérieuses. Il avait pour objectif d'accroître ainsi sa propre gloire et sa réputation. Cet espoir anéanti, il restait des heures abandonné à sa douleur, dans une attitude singulière, ses longs bras tendus en haut, comme s'il implorait du ciel un peu de justice, et la tête fortement penchée en arrière. À la nuit tombante, Messulam fut réveillé de cet état de prostration complète par une voix joyeuse qui l'appelait de son nom. C'était un droguement syrien qui, accompagné d'un seul voyageur, s'était arrêté devant le devin. Il lui dit que l'étranger qu'il guidait avait exprimé le désir de voir quelques preuves de la sagesse orientale, et lui, le droguement, n'avait pas manqué d'insister sur la merveilleuse faculté de Messulam d'interpréter les songes. Messulam ne répondit pas un seul mot à tout cela, mais resta immobile dans la même position qu'avant. Ce n'est que lorsque le droguement lui demanda une seconde fois s'il voulait bien écouter les songes que l'étranger désirait lui soumettre, qu'il laissa retomber les bras pour les croiser sur la poitrine, et tout en prenant l'attitude humble d'un homme offensé, il répondit que, ce soir, son âme était si remplie de sa propre douleur qu'il ne saurait guère juger avec justesse de choses qui regardaient un autre. Mais l'étranger, qui était d'un tempérament très vif et très impératif, ne paraissait pas se soucier de ses objections. Ne trouvant pas de siège, il enleva du pied le tapis de Messulam et s'assit dans l'embrasure de la fenêtre. Puis, il se mit à raconter, à voix haute et claire, les songes qu'il avait faits, pour que le droguement les traduisît au vieux devin. « Dites-lui, fit le voyageur, qu'il y a quelques années, je me trouvais au Caire, en Égypte. Puisqu'il est un homme savant, il ne doit pas ignorer qu'il y a là une mosquée dite El-Azhar, qui est en même temps l'école la plus célèbre de l'Orient entier. Je m'y suis rendu un jour pour la visiter, et j'ai trouvé l'énorme bâtiment, les salles aussi bien que les arcades et les couloirs, tout remplis d'étudiants. Il y avait là des vieillards qui avaient consacré leur vie entière aux études, et des enfants en train d'apprendre à écrire leurs premières lettres. Il y avait là des nègres de haute taille venus du cœur de l'Afrique, de beaux et sveltes adolescents des Indes et de l'Arabie, des étrangers venus de la Barbarie, de la Géorgie et de tous les pays dont les habitants embrassent le Coran. Auprès des colonnes, on me dit que dans El-Azhar il y a autant de professeurs qu'il y a de colonnes, se tenaient les maîtres accroupis sur leur peau de mouton et les élèves qui faisaient cercle autour d'eux écoutaient religieusement leurs leçons en se dandinant. Et dites-lui bien que Elazar ne répond en aucune façon aux idées que nous nous en faisons en Occident d'une grande école. J'ai été néanmoins stupéfait de ce que j'ai vu, et je me suis dit, voici la grande forteresse de l'islam. C'est d'ici que sortent les jeunes combattants de Mahomet. L'école d'Elazar prépare des breuvages magiques qui conservent aux enseignements du Coran leur fraîcheur et leur puissance de vie. Tout cela fut dit presque d'une seule haleine. Ici, cependant, le voyageur fit une pause pour laisser le droguement traduire. Puis il continua. Dites-lui encore que Elazar m'impressionna tant que la nuit suivante je la revis en songe. Je vis le vaste bâtiment en marbre blanc et le grand nombre des étudiants, tous vêtus de manteaux noirs et de turbans blancs, selon la coutume de Elazar. Je parcourus les salles et les préaux, et de nouveau je m'émerveillais de voir cette œuvre magnifique de défense de l'islam. Enfin, j'arrivais, en songe, au pied du minaret, dans lequel le muezzin m'ont annoncé aux fidèles que l'heure de la prière a sonné. Je vis l'escalier qui s'enroule en spirale autour du minaret, et je vis un muezzin le monter. Il était vêtu d'un manteau noir et d'un turban blanc, tout comme les autres. Et tout d'abord, lorsqu'il s'engagea dans l'escalier, je ne pus voir son visage. Mais après qu'il eut fait un tour, il vint à tourner le visage vers moi, et alors je m'aperçus que c'était Jésus-Christ. L'étranger fit une brève pause, et de sa poitrine s'échappa un soupir profond. « Je n'oublierai jamais, dit-il, bien que ce ne fût qu'un rêve, l'impression ressentie en voyant Jésus-Christ monter l'escalier du minaret d'El-Azhar. Le fait qu'il était venu là, à cette forteresse de l'islam pour y crier les heures de la prière, m'a semblé si beau, si plein de sens, que je me suis réveillé en sursaut. » Ici, le voyageur fit une nouvelle pause pour laisser le droguement traduire. Cela cependant parut être peine perdue. Mais Sulam persista à se dandiner tout le temps, les mains sur les hanches et les yeux à moitié fermés. Il avait l'air de dire « Puisque je ne puis échapper à ces gens importuns, je leur ferai bien voir que je ne me soucie pas d'écouter ce qu'ils me racontent. Je tâcherai de m'endormir en me berçant. Ce serait là le meilleur moyen de leur montrer le peu de cas que je fais d'eux. » Le droguement fit observer aux voyageurs que tous leurs efforts resteraient vains, et qu'il ne réussirait pas à extorquer un seul mot raisonnable à Messulam du moment qu'il était de cette humeur-là. Mais l'Européen parut être épris de l'extraordinaire laideur et des gestes singuliers de Messulam. Il le regarda avec le même plaisir que prend un enfant à regarder une bête d'une ménagerie, et il eut malgré tout envie de continuer l'entretien. « Dites-lui que je ne lui aurais pas demandé de m'interpréter ce rêve, fit-il, s'il ne m'était pas, pour ainsi dire, revenu une seconde fois. » Faites-lui savoir qu'il y a quelques semaines, j'ai visité la mosquée de Sainte-Sophie à Constantinople, et qu'après avoir fait le tour du merveilleux monument, je suis monté dans une des galeries supérieures pour mieux voir la magnifique salle du dôme. Dites-lui encore qu'on m'avait laissé entrer dans la mosquée au cours d'un service lorsqu'elle était remplie de fidèles. Sur chacun des tapis innombrables qui jonchaient le carreau de la nef du milieu, se trouvait un homme debout faisant sa prière. Tous ceux qui prenaient part au service faisaient simultanément les mêmes gestes. Tous se mettaient à genoux, se prosternaient, se relevaient en même temps. Tous murmuraient tout bas leurs prières. Mais de ces mouvements presque imperceptibles de lèvres innombrables naissait un bruissement mystérieux, qui montait vers les voûtes pour mourir et reprendre à des intervalles réguliers, répercuté en chuchotements mélodieux par les couloirs et les galeries éloignées. Tout cela était si étrange qu'on en était à se demander si ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui soufflait à travers le sanctuaire. Le voyageur s'arrêta de nouveau. Il observa Messulam pendant que le droguement traduisait ses paroles. On eut l'impression qu'il s'était réellement efforcé d'attirer l'attention du nègre par son éloquence. Il parut du reste y avoir réussi, car les yeux de Messulam se prirent tout d'un coup à briller comme des charbons qui commencent à prendre feu. Mais têtu, comme un enfant qui ne veut pas qu'on l'amuse, le devin laissa retomber sa tête sur sa poitrine, et se remit à se dandiner encore plus impatiemment qu'avant. « Dites-lui, auprès d'étrangers, dites-lui que jamais je ne vis prier dans un tel recueillement. » Il me sembla que c'était la sainte beauté de ce monument merveilleux qui faisait naître cette sensation d'extase. « En vérité, me dis-je, voici encore une des forteresses de l'islam, voici le foyer du recueillement et de la ferveur. » C'est de cette mosquée puissante qu'émanent la foi et l'enthousiasme qui font la puissance de l'islam. Il s'arrêta de nouveau pour suivre attentivement le jeu de la physionomie de Messulam pendant la traduction. Il ne découvrit aucun signe d'intérêt, mais l'étranger était évidemment un homme qui aimait s'écouter parler. Il se grisait de ses propres paroles, il aurait été bien fâché de ne pouvoir continuer. « Eh bien, dit-il, lorsqu'il put de nouveau parler, je ne pus expliquer au juste ce qui m'arriva. Il est possible que la vague odeur des innombrables lampes à huile, unie aux murmures et aux gestes monotones des fidèles, me mit dans un état de somnolence, d'assoupissement. Je ne fis que fermer les yeux là où je me trouvais adossé contre une colonne. Immédiatement une sorte de sommeil, ou plutôt de léthargie, s'empara de moi. Cela ne dura probablement qu'une minute. Mais pendant cette minute-là, j'étais complètement ravi à la réalité ambiante. Dans mon état léthargique, je vis toujours devant moi la mosquée de Sainte-Sophie et la foule des gens en prière. Mais maintenant j'aperçus ce que je n'avais pas vu auparavant. Là-haut, sous la coupole, il y avait des échafaudages sur lesquels se trouvaient des ouvriers munis de brosses et de pots de couleur. « Dites-lui encore, poursuivit le conteur, s'il ne le sait pas déjà, que la mosquée de Sophie fut autrefois une église chrétienne et que ses voûtes et sa coupole sont couvertes de mosaïques sacrées, bien que les Turcs aient caché toutes ces images sous une couche de couleur jaune. Or, dans mon songe, il me sembla que la couleur jaune s'était détachée à divers endroits et que les peintres étaient grimpés sur les échafaudages pour réparer la peinture. Mais au moment même où l'un d'eux leva sa brosse pour étaler sa peinture, un autre grand morceau de couleur s'écailla, faisant apparaître à mes yeux une belle image du Christ. De nouveau, le peintre tendit son bras pour couvrir l'image, mais le bras retomba comme paralysé, sans force devant le visage majestueux. Du même coup, la couleur se détacha partout des parois de la coupole et des voûtes, et le Christ apparut dans toute sa splendeur, entouré des anges et des chœurs célestes. À cette vue, le peintre jeta un cri qui fit lever la tête aux fidèles en prière sur le carreau de la mosquée. En apercevant les chœurs célestes qui entouraient le Rédempteur, ils poussèrent un cri d'extase et tous tendirent les mains en haut. Mais devant cet enthousiasme, je fus saisi moi aussi d'une telle émotion que brusquement je me réveillai. Alors tout était comme auparavant. Les mosaïques du plafond restaient cachées sous la couleur jaune et les fidèles continuaient à invoquer Allah. Lorsque le droguement eut traduit cela, Messulam ouvrit un œil et regarda l'étranger. Il vit un homme qu'il trouva pareil à tous les autres occidentaux qui passaient par sa mosquée. « Je ne crois pas que ce pâle étranger ait pu avoir des visions, » se dit-il. « Il n'a pas les yeux sombres qu'il faut pour regarder derrière le rideau du mystère. Je crois plutôt qu'il est venu pour se moquer de moi. Il faut que je prenne garde qu'en ce jour d'année, je ne sois frappé d'une nouvelle humiliation. » L'étranger poursuivit son exposé. « Tu sais, au devin, » dit-il s'adressant cette fois directement à Messulam, comme s'il avait la sensation d'être compris malgré sa langue étrangère, « tu sais qu'un hôte célèbre visite actuellement Jérusalem. Les autorités de la ville font leur possible pour lui plaire. Il a même été question d'ouvrir à son intention la porte murée de l'enceinte de Jérusalem, celle qu'on appelle la porte dorée, et qu'on croit être celle par où Jésus-Christ fit son entrée le dimanche des rameaux. On avait vraiment conçu l'idée de faire à l'auguste voyageur l'insigne honneur de le faire entrer à Jérusalem par une porte murée depuis des siècles, mais on fut retenu par une vieille prédiction qui proclame que si l'on ouvre cette porte, les Occidentaux passeront par là pour s'emparer de Jérusalem. Mais maintenant, tu vas entendre ce qui m'est arrivé la nuit passée. Il faisait un clair de lune merveilleux. Le temps était superbe et j'étais sorti tout seul pour faire une promenade tranquille à travers la ville sainte. Je me trouvais en dehors de l'enceinte, sur le sentier étroit qui contourne les murs, et au cours de la promenade, mes pensées s'enfurent vers des temps si reculés que je ne me rappelais plus guère où j'étais. Tout d'un coup, je me sentis fatigué, et je me demandais si je n'allais pas bientôt arriver à une porte de l'enceinte par où rentrer dans la ville et regagner ainsi mon auberge par le plus court chemin. Au moment même que je rumine cela, j'aperçois un homme en train d'ouvrir une grande porte dans l'enceinte tout près de moi. Il l'ouvrit toute grande devant moi, me faisant signe de passer. J'étais tout à ma rêverie et ne me rendais pas compte jusqu'où j'avais poussé ma promenade. J'étais bien un peu surpris de trouver une porte à cet endroit précis, mais je n'y pensais déjà plus au moment de passer. À peine eus-je traversé l'arche profonde que les deux battants se refermèrent avec un bruit formidable. Je me retournai vivement, mais derrière moi, il n'y avait plus qu'une porte murée, celle-là précisément que vous appelez la porte dorée. Devant moi était la place du temple, le vaste plateau du haram, au milieu duquel se dresse la mosquée d'Omar. Et tu sais bien qu'aucune porte de l'enceinte n'y mène, excepté la porte dorée, qui n'est pas seulement fermée, mais murée. Tu dois comprendre que j'ai cru devenir fou, que j'ai cru rêver, et qu'en vain j'ai cherché une explication du mystère. Je cherchais des yeux l'homme qui m'avait fait passer par là, mais il avait disparu et je ne pus le retrouver. Mais alors, je l'ai revu d'autant plus distinctement dans mon esprit. La haute stature, un peu voûtée, les beaux cheveux bouclés, le doux visage, la barbe fendue. C'était Jésus-Christ devin, encore Jésus-Christ. Et dis-moi maintenant, toi qui peux soulever le rideau du mystère, que signifient mes songes et mes visions? Que signifie surtout le fait indéniable que j'ai passé par la porte dorée? Encore à cette heure, je ne comprends pas comment cela s'est fait, mais je l'ai fait. Dis-moi maintenant ce que signifient ces trois choses. Le droguement traduisit encore cela à Messulam. Mais le devin persista dans son attitude de méfiance et de méchante humeur. Il est sûr et certain que cet étranger veut se moquer de moi, se dit-il. Peut-être pense-t-il provoquer ma colère en parlant du Christ avec une telle insistance. Il aurait préféré ne pas répondre du tout, mais le droguement insistant, il prononça quelques mots. Le droguement hésita à les traduire. « Que dit-il ? » demanda le voyageur avec empressement. « Il dit qu'il n'a pas autre chose à vous dire que cela. Les songes sont des mensonges. « Dites-lui alors de ma part, reprit le voyageur un peu irrité, que cela n'est pas toujours vrai. Le tout est de savoir qui a fait les songes. » À peine ces paroles étaient-elles prononcées et traduites, que déjà l'Européen se levait pour s'engager sans retard à pas léger et élastique dans le long couloir mystérieux. Mais Messulam resta immobile à ruminer cette réponse, 5 longues minutes. Puis, il se jeta sur le visage, anéanti. « Allah ! Allah ! Deux fois dans la même journée, le bonheur a passé devant moi sans que j'aie su le saisir. Qu'a fait ton serviteur pour te déplaire à ce point ?